Depuis le commencement de l'offensive turque contre les régions libérées du nord-est syrien, bien des changements ont bouleversé la situation politico-militaire sur place. On peut sans doute dire que la situation a gagné en complexité, et ce n'est sûrement pas faux lorsque nous disons qu'avec le début de cette offensive, une nouvelle phase du processus révolutionnaire a débuté non seulement pour le nord-est syrien, mais pour la région entière. Depuis un certain temps déjà, le mouvement de libération et ses diverses organisations parlent d'un complot international dirigé contre le mouvement kurde et en particulier contre la révolution au Rojava. Les actuelles tentatives d'occupation du sud Kurdistan, mais aussi les attaques et assassinats ciblés de dirigeantes et dirigeants du mouvement de libération, la continuelle guerre d'extermination au nord Kurdistan ainsi que la récente invasion au Rojava font partie d'un même concept et nous ne pouvons pas les analyser séparément. L'incursion au sol qui a débuté représente finalement la dernière étape de ce que les ennemis de la révolution essaient de mener à bien depuis des années, par l'embargo, parfois par la prise d'influence politique et les mises sous pression, et depuis un certain temps par l'intervention militaire directe. La guerre contre la révolution nord-est syrienne n'a sûrement pas débuté le 9 octobre 2019, mais se poursuit sans répit depuis des décennies à divers niveaux, économiques, sociaux, politiques, mais aussi militaires. La phase dans laquelle nous nous trouvons s'est définie seulement par le fait que les niveaux relatifs d'intensité de ces divers aspects changent, mais aussi par les méthodes que la résistance trouve pour répondre à la nouvelle situation. Si nous suivons la situation telle qu'elle est présentée aux informations aujourd'hui, il peut sembler difficile de comprendre, en particulier depuis le soi-disant cessez-le-feu qui n'est rien d'autre qu'une farce grotesque. Par rapport à ça, il doit être mentionné qu'un cessez-le-feu à proprement parler n'a jamais eu lieu. La guerre continue et sur la plupart des fronts, les batailles font rage. Le chaos que nous pouvons voir se déployer devant nous, donc par exemple par la présence des différentes forces militaires, des divers États intervenants, ce chaos est l'expression concrète de ce qui est décrit et analysé par le mouvement depuis des années comme étant une troisième guerre mondiale. Il n'y a aujourd'hui aucune puissance impérialiste qui ne soit d'une manière ou d'une autre représentée ici en Syrie. Il n'y a pas de puissance qui ne lutte pas dans la concurrence pour une nouvelle répartition du Moyen-Orient. Cette troisième guerre mondiale a comme foyer le sol syrien et kurde, bien que ses frontières ne s'y limitent évidemment pas. Si nous regardons la situation actuelle au Liban ou en Irak, alors nous devons prendre ces aspects en compte dans notre évaluation. Mais pour le moment, il ne s'agit pas de se plonger plus en détail dans les diverses situations régionales et le rôle des puissances globales. C'est juste important de garder ce fait en tête qu'aujourd'hui, lorsque nous essayons de comprendre la situation politique et militaire, rien qu'en analysant les intérêts, les positions de diverses puissances impérialistes intervenant ou même des régimes régionaux, alors je le crois, nous ne pouvons arriver qu'à une vision limitée de la réalité. Pour pouvoir comprendre les événements réellement dans leur profondeur, mais aussi saisir la signification du terme de complot international, il est nécessaire de ne pas négliger la révolution comme facteur à part entière entre la lutte de pouvoir entre les dominants, et plutôt de la prendre en compte comme un propre facteur de pouvoir. Pour cela, il est évidemment nécessaire de développer un point de vue idéologique, qui est à même de saisir la dimension stratégique de la guerre, et qui ne se limite pas à comprendre les démarches des États en référence à des intérêts à court terme. Et c'est pour cela que dans l'analyse tactique, nous parlons toujours de trois forces principales actives sur place, ici au Moyen-Orient. D'une part, les forces interventionnistes impérialistes, au-devant desquelles se trouvent les États-Unis. D'un autre côté, les puissances du statu quo, donc les régimes régionaux. Et enfin, dernièrement, les forces démocratiques du Moyen-Orient, les femmes, les jeunes, les peuples opprimés et les divers groupes religieux, les travailleurs et travailleuses de la région. La révolution du nord-est syrien représente aujourd'hui l'avant-garde de ces forces démocratiques et révolutionnaires des régions du Moyen-Orient. La révolution du nord-est syrien est le prolongement direct des insurrections du dit printemps arabe de 2011. Donc, si nous faisons une analyse tactique, nous devons clairement distinguer entre les différents pouvoirs et leurs intérêts afin de pouvoir les utiliser à l'avantage de la révolution. Mais si nous regardons la situation d'un point de vue stratégique, alors nous nous rendons compte qu'il n'y a en réalité pas trois, mais seulement deux lignes qui existent, à savoir l'opposition entre modernité démocratique et modernité capitaliste, entre révolution et contre-révolution, et donc entre socialisme et capitalisme. Si nous regardons la situation idéologiquement et stratégiquement, alors ce sont les conséquences que nous devons en tirer. Si nous essayons de comprendre aujourd'hui la révolution au Moyen-Orient dans son ensemble, en particulier la Fédération démocratique du Nord-Est syrien, et naturellement le but à moyen terme de l'établissement d'une république syrienne fédérale et unifiée comme le plus grand obstacle de la politique impérialiste dans la région, alors peut-être que la politique en apparence chaotique du gouvernement Trump se laisse expliquer un peu mieux. Il peut être vrai de dire que certaines démarches des USA jouent en faveur de la Russie. Peut-être qu'elles aident aussi à une nouvelle fortification du régime syrien, ce qui peut mener à spéculer sur la question de savoir si Trump agit dans les intérêts des USA. Mais ce qui est important, je crois, est de souligner le fait que ce qui importe le plus pour eux au final, c'est l'affaiblissement de la révolution. Dans cette mesure, Trump agit clairement dans l'intérêt des USA, car cette révolution est l'obstacle le plus grand à leur plan ultérieur dans la région. Il est important de comprendre qu'à ce jour, aucune démarche n'est entreprise par les USA, la Russie ou même la Turquie sans qu'il n'y ait de coordination mutuelle. Leurs démarches sont planifiées ensemble. Il y a entre eux un consensus large dans les négociations par rapport à l'importance d'affaiblir le statut politique et le poids de la révolution. Ce n'est donc pas un hasard si l'offensive turque commence au moment où la constituante mise sur pied par les Nations Unies essaie de mettre en place une nouvelle constitution syrienne au mépris des populations locales et sans représentation de l'autonomie. Après 8 ans d'une guerre sanguinaire, de la destruction économique, du pillage quasi intégral du pays et de l'expulsion d'une grande partie de la population syrienne, ils essayent aujourd'hui de mettre un terme au conflit par une nouvelle répartition du territoire syrien selon leurs intérêts. Et naturellement, dans leur vision, il n'y a pas de place pour une perspective démocratique, laïque et fédérale de la Syrie. Pourquoi ? Le système du confédéralisme démocratique représente une possibilité réelle de créer une unité entre les peuples. Cette unité est le plus grand danger pour eux, car elle porte en elle le potentiel du changement radical et définitif. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour eux de détruire cette révolution ou de moins de la forcer à capituler. Quoi que ce soit qu'ils aient essayé de soumettre à la révolution ces dernières années, les gens ici ont toujours suivi leur propre ligne. Bien sûr qu'ils ont essayé d'intervenir et essayé d'influencer la révolution à leur avantage, de la forcer dans une direction. Mais la révolution s'est toujours fortifiée militairement dans ces moments. Et le développement économique et social a toujours continué. Et naturellement, la révolution a aujourd'hui aussi mis sur pied sa propre diplomatie politique extérieure, ce qui la hisse au rang de facteur de pouvoir important dans la région. Cette révolution ne s'est pas pliée au diktat impérialiste, et c'est pour cela qu'il tente de la mettre à genoux aujourd'hui avec l'aide de la Turquie, de la remettre dans les rangs. Le fascisme turc ne représente que le marteau avec lequel ils essaient de détruire ou déformer la révolution. Mais les mains qui guident ce marteau sont en réalité des autres. Depuis le début de la guerre civile, les USA et les États de l'OTAN ont toujours misé sur des groupes de djihadistes sunnites et les ont soutenus diplomatiquement, financièrement, mais aussi militairement. La majeure partie de ces cellules djihadistes, qui se regroupent à ce jour sous le nom d'armée syrienne nationale, ont joui dans les années passées d'entraînement et d'armement par divers programmes de la CIA ou du Pentagone. Que ce soit précisément les USA à rendre le champ libre pour l'incursion turque, et par cela livrer le territoire aux djihadistes, pourrait être un premier signe que les USA pointent au retour à leur ancienne politique syrienne d'avant 2014. En 2014, la situation était tout autre. Confrontés à la destruction quasi totale de l'armée syrienne libre, d'une part, armée syrienne libre qui avait été mise sur pied par l'OTAN et les régimes réactionnaires du Golfe, et d'autre part, à la montée du projet de l'État islamique devenu incontrôlé, mais aussi avec l'influence toujours grandissante de l'Iran, du Hezbollah, c'est-à-dire de l'axe chiite, les USA se sont vus dans l'obligation d'intervenir et de soutenir la lutte de libération contre Daesh. Mais leur velléité d'instrumentalisation du projet, de prise de contrôle politique de réaccord des forces démocratiques à leur intérêt ou même de division du mouvement ont été déçus. Car la révolution du nord-est syrien poursuit toujours sa ligne indépendante, dite de la troisième voie. Toutes les tentatives des USA et de leur coalition de dévier les forces démocratiques syriennes des intérêts de la révolution et de les orienter vers une confrontation avec l'Iran ont échoué. Et de notre côté, des efforts pour une solution politique et multipartite au conflit syrien, sans intervention externe, ont été faits. Et ces efforts ont continué. Tout cela est bien évidemment une épine dans le pied des USA. C'est pour cela qu'on peut dire que les USA se sont engagés dans une voie sans issue avec leur politique vis-à-vis de la révolution. Ils n'ont eu aucun succès. Et en parallèle à cela, les USA n'ont jamais renoncé à leur soutien aux bandes islamistes. Et il faut rappeler que lorsqu'en août 2016, la Turquie mène, par son opération bouclier de l'Euphrate, une action de sauvetage pour la faiblissante, soi-disant opposition syrienne, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, elle a reçu le plein soutien des USA. C'est ainsi que les troupes américaines spéciales ont pris part à la conquête de la ville de Jarablus auprès des forces turques. Par ailleurs, les USA ont formé des groupements islamistes en Turquie, en Jordanie, leur ont livré des armes, etc. L'autoproclamé régime syrien transitoire, qui représente le bras politique des bandes islamistes, est encore aujourd'hui la seule représentation reconnue par l'OTAN du peuple syrien. C'est ainsi tout à fait possible que les USA, avec en arrière-plan de potentiels plans d'intervention contre l'Iran à moyen terme, essaient de recommencer à renforcer les islamistes sunnites. Cela car, depuis plus longtemps déjà, il est discuté de la possibilité que les USA soient, avec l'Arabie saoudite et d'autres États, en train de construire une armée anti-iranienne sunnite, et cela sur plusieurs pays. C'est ainsi qu'il y a par exemple eu des tentatives de la part de la coalition de prendre contrôle des franges sunnites et arabisées des forces démocratiques syriennes au sud des zones libérées et de les positionner comme forces indépendantes au dehors de l'alliance. L'avenir montrera quelle attitude la Turquie va prendre vis-à-vis de l'Iran par la suite. Peut-être qu'il y a eu dans l'arrière-boutique un accord de ce sens à l'origine de l'offensive. Pour le moment, la situation est telle que les USA essayent de se refaire une vision politique sur les cendres de l'ancienne, et cela peut durer encore un certain temps, jusqu'à ce qu'une ligne claire puisse être reconnue. Si les USA parviennent à définir une ligne claire, alors forcément la Turquie devra se positionner par rapport à celle-ci. Le fait est qu'avec l'unification des principales milices djihadistes en Syrie sous l'égide de l'armée nationale, mais aussi avec la percée à l'est de l'Euphrate, un grand pas était réalisé en faveur de la Turquie et des USA pour remettre en cause l'équilibre des forces dans la région. Avec le gouvernement transitoire de l'armée nationale syrienne, une police indépendante est organisée, divers ministères, le tout situé en Turquie d'où ces ministères font leur travail, avec leurs propres ambassades comme par exemple au Qatar, il est clair que le but est de construire une structure étatique qui pourra à l'avenir se mesurer à l'État syrien centralisé non seulement sur le plan de la légitimité, mais aussi militairement. À la lumière de ces considérations, il est clair que les négociations actuelles entre la dite opposition et le gouvernement syrien, qui d'ailleurs prennent place sous la régie des USA, sont en fait vouées à l'échec. À mon avis, la constituante ne représente qu'une énième mascarade qui ne mènera nulle part. Les puissances interventionnistes poursuivent toujours un objectif d'escalade guerrière, et tant que la situation ne leur convient pas, leur politique de déstabilisation se poursuivra. Les mêmes conclusions s'appliquent à la Russie. La Russie, bien qu'elle se profile fréquemment comme protectrice et conservatrice de la souveraineté, de l'unité et de l'indépendance syrienne, a fait partie des moteurs de cette guerre, et même, elle y joue un rôle important et essaye de l'utiliser à sa faveur. La Russie a, ces derniers temps, de manière répétée, revendiqué une capitulation kurde devant le régime syrien, et cela va de soi que ce n'est pas recevable. Cela étant dit, la Russie use souvent d'un double jeu, et utilise aussi la Turquie et l'existence des djihadistes comme un moyen de pression contre les régimes syriens, afin d'entretenir un rapport de dépendance permanent. Il ne faut en aucun cas comprendre l'ingérence russe en Syrie comme un service amical rendu à Assad. La Russie essaie de se voir dans le rôle qu'avaient auparavant les USA, globalement et régionalement. Et la Russie pense donc en termes globaux, ce qui explique ses efforts pour un détachement progressif de la Turquie, de l'OTAN et du bloc des puissances occidentales, ce qui a globalement une signification bien plus importante que la préservation de l'unité du territoire syrien. C'est pour cette raison que la Russie est amenée à céder des portions du territoire syrien à la Turquie. Al-Bab, Idlib, Afrin, maintenant Serekaniye et Gyrespie, la liste des territoires syriens vendus par la Russie est longue. Ce qui me mène à affirmer que la Russie continuera comme ça à l'avenir. En même temps, un des objectifs certains de l'État russe est la liquidation politique des projets révolutionnaires au nord de la Syrie. C'est ainsi que Lavrov parle de l'importance de la question kurde, mais réduit celle-ci à une affaire culturelle et à une question du droit à la langue maternelle. En même temps, la Russie pousse les forces révolutionnaires à ne parler qu'au nom du peuple kurde dans les négociations, mettant de côté les populations arabes, assyriennes, turkmènes, tcherkessiennes et autres. Le but étant de contenter les Kurdes avec quelques procédures formalistes et leur obtenir un semblant d'autonomie culturelle et par la même occasion briser l'unité des peuples qui est une des grandes forces de la révolution. Les questions essentielles d'autogestion locale, de décentralisation de l'État syrien, ainsi que de la répartition juste des ressources naturelles et des richesses du pays, ne sont même pas évoquées par la Russie. De l'autre côté, il faut dire que l'attitude du gouvernement central syrien et de Bachar al-Assad dans l'actuelle guerre peuvent être jugées plutôt positivement. La question kurde est reconnue par eux pour la première fois comme une réalité, et ils appellent à la lutte commune, tous les Kurdes et Arabes sans distinction, contre l'occupation, et montrent à travers cela une nette disposition, disons, à la négociation. Mais bien évidemment que cela dépend du bon vouloir de la Russie de savoir comment le dialogue débutant entre l'autonomie du nord-est syrien et le gouvernement central. Jusqu'à présent, c'était surtout les puissances externes qui ont empêché ou saboté ce dialogue. Car l'autonomie kurde a, depuis 2012, entrepris tous les efforts possibles pour trouver une solution commune avec l'Union syrienne, amorcer une démocratisation de la Syrie et de mener un terme à la guerre de cette manière. Naturellement que cela est toujours aussi une question du rapport de force et de la position de laquelle on mène les négociations. Assad fait aussi ses spéculations concernant cela. C'est-à-dire qu'un affaiblissement de la part de la Turquie signifie une meilleure situation de négociation pour le gouvernement central. Qu'Assad soit prêt à mener un dialogue honnête, sérieux et ouvert dépend de ce rapport de force et de si la révolution arrive à prouver sa force face à l'agression turque. C'est pour cela que, jusque maintenant, malgré les pas positifs qui ont été faits, les prises de position de Damas donnent toujours le même son de cloche, à savoir, il requiert la soumission totale au régime. Naturellement, les pas qui sont faits en ce moment vers une alliance militaire pour une défense commune des zones nord et est syriennes peuvent être interprétés comme des premières avancées positives et peuvent montrer la voie pour un dialogue politique futur. Les prochaines semaines et mois montreront comment tout cela évoluera à l'avenir. De manière générale, on peut résumer que la révolution du nord-est syrien, ou plus généralement la révolution au Moyen-Orient, est aujourd'hui confrontée avec de grands dangers. Évidemment que chaque crise et chaque chaos qui se développe amène avec soi de nouvelles chances. Il est clair que la révolution est attaquée de divers côtés, que tout le monde essaye de la tirer à soi. Personne n'accepte la révolution telle qu'elle est maintenant. Le pourquoi est clair. Dans les dernières années, disons depuis 2011, la révolution a su émerger des tourments de la guerre civile syrienne comme la force la plus conséquente, et cela bien que personne ne l'ait vu venir et que personne n'y ait cru. avec les forces démocratiques syriennes est apparue une armée révolutionnaire qui ne connaît d'égal au Moyen-Orient, de par sa taille et son rayonnement. Pour la première fois dans l'histoire du Moyen-Orient, après son éclatement dû à la répartition faite par les impérialistes ces 100 dernières années, pour la première fois, des Kurdes, des Arabes, des Assyriennes, des Turkmènes et bien d'autres mènent la lutte côte à côte contre le fascisme et l'impérialisme. C'est naturellement quelque chose d'historique et qui représente énormément. Plus de 5 millions de personnes vivent aujourd'hui, et ce depuis des années, dans le système de l'autonomie démocratique. Le système se répand dans toutes les directions du Moyen-Orient. Aussi dans d'autres régions syriennes et du Moyen-Orient, on trouve toujours plus d'intérêt, toujours plus de gens qui se sont intéressés pour les théories derrière et essayent d'en étendre le système. On peut dire que la révolution est naturellement devenue un grand facteur de pouvoir dans la région et certaines puissances...
Nous sommes dans une phase de crise, une phase de chaos. Mais comme dans chaque crise, comme dans chaque chaos, l'issue de la phase est déterminée par le degré d'organisation, d'initiative et de détermination des diverses forces qui luttent ensemble. Cela veut dire que l'issue dépendra du niveau auquel le mouvement ici, mais aussi le mouvement global, arrivera à étendre la résistance, à s'organiser, à planifier, à trouver les bonnes réponses selon la situation et son évolution dans le temps. Jusqu'à présent, ce mouvement a réussi à transformer chaque défensive en offensive. Le meilleur exemple est Kobané. La bataille de Kobané, qui s'est finalement terminée avec la victoire à Barous contre le califat, et enfin avec la destruction complète du califat. De la même manière, on peut transformer cette situation de chaos et de danger en victoire. Les dangers signifient par ailleurs toujours de grandes victoires, et dans ce sens, je pense que nous pouvons continuer à être optimistes malgré l'agression turque, si nous gardons à l'esprit notre devoir d'organisation pour mener la résistance. La résistance globale, le mouvement de résistance globale, contribue énormément à donner à la révolution ici un statut indépendant. Peut-être que le mouvement au niveau international n'est pas encore en mesure de stopper la guerre, de l'empêcher, mais en tout cas il représente un facteur à part entière. Chaque bataille qui est menée dans un pays impérialiste renforce de l'autre côté la diplomatie de la révolution et donne à cette dernière champ libre pour négocier. Et par rapport à ça, il faut souligner que c'est très important tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et mois en Europe et sur la terre entière et amène beaucoup à la lutte ici. Dans ce sens, nous restons optimistes. Les dangers amènent toujours aussi de grands espoirs et je suis sûr que la prochaine victoire arrivera bientôt.